Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le Grand Entretien le fondateur du mouvement Génération, conseiller régional d'Île-de-France. Vos questions 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application France Inter. Benoît Hamon, bonjour.
Bonjour Nicolas Demorand.
Emmanuel Macron a présenté jeudi dernier un plan de lutte contre la pauvreté qui part de la petite enfance et de la jeunesse, instaure un revenu universel d'activité qui sera composé à terme de la fusion d'un maximum d'aide sociale. L'ambition, c'est d'éradiquer la grande pauvreté en une génération. Vous avez souvent fustigé, Benoît Hamon, un président des riches depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Est-ce que sur la pauvreté, vous reconnaissez qu'il prend le problème à bras-le-corps ?
Non, je ne crois pas. Pas assez, en tout cas. Il y a 9 millions de pauvres, un peu moins, mais il y a 9 millions de pauvres en France. Cela supposerait une politique radicalement différente de ce qu'elle est. Et pour commencer, je vais proposer une mesure qui, j'espère, pourrait être retenue dans le cadre de la concertation engagée par le président de la République, mais qui aurait un effet immédiat et un impact immédiat sur la pauvreté. Le président de la République le sait. Une des réalités de la pauvreté en France, c'est que ceux qui sont éligibles, qui ont droit aux minima sociaux, le RSA par exemple, n'en profitent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne le demandent pas. Un tiers d'entre eux. Nous savons qu'il y a un tiers des personnes les plus pauvres.
De cette simplification.
Mais la simplification, c'est pas l'automaticité. Il n'a jamais été évoqué par le président de la République qu'il pourrait être fait en sorte que demain, une personne pauvre reçoive automatiquement le RSA. Le non-recours au RSA conduit près d'un tiers des personnes éligibles à ne pas avoir ce RSA, ces quelques centaines d'euros sur leur compte en banque. Et ça coûte, et en tout cas, pardon de le dire, mais les chiffres sont parlants, ça permet à l'État de faire 5 milliards d'euros d'économies sur le dos des pauvres. 5 milliards d'euros d'économies par an, c'est l'observatoire, je crois, des non-recours qui donnait ce chiffre. Eh bien, si vous rendez automatique les minima sociaux, vous avez là une mesure à impact immédiat sur les personnes les plus pauvres. Ça n'est pas aujourd'hui envisagé, mais j'entends aussi une autre musique de la part du président de la République. Il parle, bon, de revenu universel. Tout le monde a compris que c'était pas très universel.
Vous avez vu un hommage ?
Non, mais je vois que ce débat s'installe. Je vois que cette question qui faisait sourire, voire ricaner, s'impose dans le débat public, pas seulement en France. Le président Obama venait de prendre position en faveur du revenu universel. On voit que partout, on s'inquiète en tout cas des transitions dont je parlais lors de la présidentielle, c'est-à-dire l'impact de la révolution numérique sur le travail.
Sauf que le revenu universel...
Et la nécessité de penser notre protection sociale différemment.
Sauf que le revenu universel d'Emmanuel Macron est très loin,
n'a rien à voir
avec le vôtre, puisque pour l'instant, c'est une fusion des différents minima.
Non seulement il n'est pas universel, ce qui est le premier mensonge, mais en plus, il est conditionné à une activité. Et c'est là qu'il y a quelque chose de particulièrement problématique dans l'approche d'Emmanuel Macron. Conditionné à une activité. Est-ce que ça veut dire demain que le RSA, pour pouvoir y accéder, ou le revenu universel d'activité, suppose qu'on ait une démarche volontaire de formation, d'emploi? En clair, une contrepartie. Je rappelle, et notamment aux auditeurs de France Inter, que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on s'honore de respecter, il y a un article 25 qui prévoit qu'on ait tous le droit à l'habillement, à la santé, à la sécurité, au logement. En clair, un droit fondamental à vivre correctement sans contrepartie. Et désormais, cette idée qu'il faille, pour les plus pauvres, montrer patte blanche, démontrer une volonté de s'en sortir pour pouvoir accéder aux minima sociaux, c'est objectivement une vraie régression.
Mais Benoît Hamon, pardonnez-moi, les associations de lutte contre la pauvreté, ATD Quart Monde, la Croix-Rouge, le Secours Populaire ont toutes salué ce plan. Laurent Berger de la CFDT a dit que ça va dans le bon sens. 8 milliards d'euros dans le cadre actuel où il faut faire des efforts partout, où le déficit explose. 8 milliards d'euros. Vous n'êtes pas capable de dire c'est déjà bien ?
Mais on peut toujours se réjouir. Moi, je me réjouis qu'on puisse avoir demain des petits déjeuners gratuits, qu'on puisse avoir une restauration scolaire.
Est-ce qu'on ne peut pas commencer par dire quand même
il a fait
un geste ?
Madame Salamé, les associations, elles ont raison de dire c'est toujours mieux. Et elles prendront le verre au dixième plein parce que c'est toujours un peu mieux. La réalité, c'est que ce plan n'éradique pas la pauvreté. C'est qu'il ne prend pas en compte la grande pauvreté. Pire, je vais même rajouter quelque chose, c'est que on constate qu'on a un système social plutôt efficace. Parce qu'il nous permet justement, après transferts sociaux, d'être sans doute un des pays qui lutte le mieux contre la pauvreté. Or, c'est ce modèle social qu'Emmanuel Macron s'échine à remettre en cause. Donc, on peut pas d'une main remettre en cause le modèle social qui fait qu'on a moins de pauvres en France, et de l'autre côté dire « je mets 8 milliards » et de devenir du jour au lendemain le président des pauvres. Emmanuel Macron n'est pas le président des pauvres, il n'est pas d'ailleurs même le président de tous les Français au sens où ils attendent que sa politique s'intéresse à leur pouvoir d'achat et à leurs conditions réelles de vie. Il a fait un choix politique depuis le début. Il considère qu'en mettant le paquet sur les plus riches, par ruissellement, ça fera avancer la France. Ça ne marche pas. C'est inefficace. Ça n'a pas les résultats en termes de croissance, pas les résultats en termes d'emploi, pas les résultats en termes d'inégalité, et ça n'en aura pas, je suis désolé de le dire, sur un point essentiel, la lutte contre la grande pauvreté.
Jean-Michel Blanquer était dans ce studio il y a quelques instants. Plus 850 millions d'euros pour le budget de l'éducation nationale, 1800 postes supprimés, 400 postes administratifs, 1400 professeurs. En rééquilibrant, disait Jean-Michel Blanquer, l'effort de la nation sur l'école primaire, vous qui avez été ministre de l'éducation, quelle est votre réaction ce matin à ces annonces?
Écoutez, d'abord, le budget, il évolue juste parce que la masse salariale, elle évolue. Alors attention à ces ministres qui annoncent des augmentations de budget simplement liées au fait que la masse salariale grandit parce que, avec l'allongement de la carrière, on
donc
paye davantage.
Donc c'est un
trompe-l'œil.
Il n'y a pas plus 850 millions.
Non, mais prenons les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, vous avez des classes à 30-35 dans la filière technologique, en lycée. En BTS, il n'est pas rare qu'on soit à 30-35. On commence à 35 et on finit à 25. Pourquoi? Parce qu'il y a si peu d'adultes pour encadrer tant d'élèves que certains élèves, notamment issus de la filière technologique ou pro, se découragent en cours d'année. La réalité, c'est que dans certains départements, on dépasse mais tous les quotas et qu'on n'étudie pas dans des conditions qui sont des conditions acceptables. Faire le choix aujourd'hui dans l'éducation nationale de mettre moins d'adultes, quand on sait que en primaire, en collège, en lycée, le nombre d'élèves par professeur, le nombre d'élèves par classe est au-dessus des moyennes de l'OCDE, ça n'est pas sérieux. Et je le dis à Jean-Michel Blanquer, c'est que il était un ministre qui se préoccupait des questions de la science. Il a dit, il faut quand même écouter les scientifiques. Il a fait contre toutes les recommandations des chronobiologistes et de la science sur le primaire. Il a remis en cause la réforme des rythmes scolaires et on va encore avoir les journées de classe les plus chargées qui soient dans l'école primaire. 8100 heures à l'école en primaire en France contre 7500 en moyenne dans l'OCDE. On a de meilleurs résultats? Non.
Et donc là, les 1400 postes mettent en péril la totalité de l'édifice.
Mais Nicolas Demorand, non, mais l'édifice, il ne va pas bien. Si vous, en plus, vous rajoutez des suppressions de postes, je rappelle que dans l'école
primaire... Dans le secondaire, oui, Benoît Hamon, dans le primaire, il y aura plus de professeurs dans le primaire, il y a le dédéboulement des classes dans le primaire.
Léa Salamé, tous les parents d'élèves ont connu l'année dernière et l'année précédente, et cette année, la chose suivante, c'est qu'on n'a pas vu forcément de suppression de classe, mais on a vu que des adjoints administratifs avaient disparu dans les écoles. Ces fameux contrats aidés, qui étaient plus de 400 000 en matière de lutte contre la pauvreté, passaient de 400 000 à 100 000, divisés par 4, qui concernaient des personnes modestes, mais qui travaillaient dans les écoles. Ils rendaient de précieux services. Donc il y a eu déjà cette coupe-là dans l'éducation nationale. Alors demain, on va supprimer des postes dans les collèges et dans les lycées. Faut-il moins d'adultes à l'école aujourd'hui ? Je ne le crois pas. Est-ce qu'on peut accepter qu'on puisse étudier aujourd'hui en filière technologique, en filière pro ou en BTS avec 30 à 35 élèves? Je ne le crois pas. Donc je pense que c'est une mauvaise politique aujourd'hui que de considérer qu'il faut tout parier sur les heures supplémentaires.
Dans le cadre de la loi Pacte qui est actuellement en examen à l'Assemblée nationale, un amendement de la majorité veut imposer aux entreprises de publier les écarts de salaire dans les grandes entreprises. Cet amendement est soutenu par le gouvernement. Est-ce que vous le soutenez également ?
Oui, tout ce qui contribue à la transparence, je m'en réjouis. La réalité, c'est que il faudrait faire en sorte que on n'ait pas seulement l'information des écarts de salaire, mais qu'ils se réduisent. On a aujourd'hui des écarts absolument insupportables dans le secteur privé qui peuvent aller de 1 à 100, à 200, à 300, et il faudrait que cela se réduise. Bon, moi, je me réjouis qu'il y ait un amendement qui améliore la transparence. Je pense qu'il faudra avoir une politique qui réduit ces inégalités insupportables.
Au lendemain de la fête de l'humanité, on voit clairement que la gauche se prépare à aller profondément diviser aux élections européennes. Liste PC, PS, La France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération. Est-ce que, pour le dire très simplement, ça n'est pas suicidaire que de se préparer de cette manière-là à l'élection ?
Bon, vous ne donnez pas le casting final. Vous dites où nous en sommes aujourd'hui.
Non,
moi, je veux vous parler franchement. Je pense qu'on a deux difficultés à gauche aujourd'hui qu'il faut regarder honnêtement. La première difficulté, c'est une divergence idéologique importante entre Jean-Luc Mélenchon et moi, par exemple, sur la question européenne. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait de déconstruction heureuse de l'Europe. Je ne crois pas qu'on puisse envisager, en tout cas je ne le souhaite pas et je ne le veux pas, une sortie de l'Europe comme une option sérieuse si l'Europe n'acceptait pas de changer les traités comme on le souhaite. Je considère qu'au moment où les nationalismes montent partout, je pense qu'il n'y a pas de solution qui passerait par la sortie de l'Europe, qui puisse être favorable aux citoyens français. En clair, tout scénario ou toute option de sortie de l'Europe renforce le nationalisme et ne nourrirait
d'accord,
que le nationalisme.
Ça, c'est votre réponse à Jean-Luc Mélenchon.
C'est la première difficulté. Et on peut la traiter par un dialogue respectueux des positions, mais c'est une vraie difficulté que nous avons. La deuxième difficulté, c'est que tous les appareils traditionnels de la gauche sont en crise, et à commencer par le Parti Socialiste, mais on pourrait y rajouter Europe Écologie Les Verts, le congrès du Parti Communiste qui se fait dans un contexte où il y a une vraie interrogation identitaire, et on voit bien que le Rassemblement de la gauche...
Et Génération également.
Oui, mais c'est un nouveau parti. Nous ne sommes pas... qui produit des solutions, à la différence de beaucoup d'autres formations politiques, nous essayons de produire des solutions. Mais ce que je veux dire, c'est que en clair, le Rassemblement de la gauche, ça ne peut pas être une alliance de partis en crise. Et ce qui me frappe, une fois ces deux difficultés posées, c'est qu'en fait, on tourne souvent le dos à une réalité, c'est que, bon, la classe politique, elle est beaucoup déconnectée des solutions que préconisent les Français. Ce ne sont pas les politiques qui ont alerté sur le réchauffement climatique. Ce ne sont pas les politiques qui ont alerté sur les perturbateurs endocriniens, les pesticides, mais cette fois-ci les médecins. Ce ne sont pas les politiques qui ont alerté sur le drame des réfugiés en Méditerranée. Eh bien, je pense que entre les libéraux de M. Macron, qui seront sur la ligne de départ, les nationalistes, qui seront sur la ligne de départ. Le troisième homme.
Chez les nationalistes
Non, je n'ai pas, dit chez les nationalistes. Je dis le troisième homme que nous devons imposer, c'est le citoyen. Et ce citoyen, il doit trouver une liste. Et j'espère que ce sera une liste de gauche et des écologistes. Parce que, objectivement, aujourd'hui, si on attend que la gauche se régénère par un accord d'appareil en crise, on n'y arrivera pas.
Alors, Luc Carvounas a proposé hier, il est député socialiste, il lance un appel solennel à vous, il voudrait une liste commune qui irait du PS à Génération de Benoît Hamon, en passant par le Parti Communiste et les Verts, avec un Yannick Jadot à sa tête. Est-ce que ça vous semble pas bien
Écoutez, là encore... Les Verts se sont choisis en leur sein tête de liste, le PC aussi, le PS va le faire. Voilà, les Verts, le PC, le PS. Bon, très bien, c'est sur la table. Moi, je pense que s'il y a une personnalité avec laquelle j'ai envie de discuter, au-delà des mouvements citoyens qui existent, je l'ai évoqué sur la question écologique, sur la question de la santé environnementale, du travail, c'est Hulot. C'est Hulot. C'est une des personnalités avec lesquelles moi j'ai envie de discuter. C'est pas avec les dirigeants des partis ou les candidats qu'ils ont choisis. Parce que je trouve que...
Le but de cette conversation?
Parce que je pense qu'il pose le bon diagnostic. Il pose le bon diagnostic. Et pourquoi je m'y reconnais? Parce que nous en avions parlé il y a plus d'un an, quand il a décidé, lui, de me soutenir. Parce qu'il trouvait dans mon programme les solutions au diagnostic qu'il posait, c'était quoi? Il n'y a pas d'écologie dépolitisée. Ça n'existe pas. L'écologie qui s'arrange avec la droite, l'écologie qui s'arrange avec la gauche, et encore moins d'écologie franco-française, qui considère qu'on peut rapatrier la souveraineté en France et qu'on réglera les problèmes du réchauffement climatique.
Et donc vous pensez que ça pourrait être une figure à nouveau, Nicolas Hulot, pour dépasser tous les clivages de la gauche?
C'est ma manière de vous répondre. Plutôt que de nous retrouver encore dans cette énième discussion d'appareil qui, moi, me fatigue et qui ne mène à rien, surtout quand c'est sans solution derrière et quand les partis n'ont pas produit une solution, et je le redis, je repense à ma campagne présidentielle. Sur les grandes transitions, sur le rapport au travail,
oui,
tout
Benoît,
ce que j'ai pu dire.
Non, mais
pardon.
Non, mais vous avez entendu Nicolas. Est-ce que vous avez entendu Nicolas? Nicolas Hulot dans ce studio?
Justement.
Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je ne ferai jamais de mal à Emmanuel Macron. Vous le voyez présenter une liste concurrente.
Je ne parle pas de présenter une liste. Si vous me parlez d'une personnalité, la seule qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celle-là, parce qu'elle pose les bons diagnostics, parce que ce qu'il a dit sur le fond, c'est ce que nous devons retenir. Où on en est de son appel au réveil des consciences? Où on en est? Nulle part. Est-ce qu'on envisage demain que, plutôt que d'avoir des critères de Maastricht absurdes sur la question des déficits publics, on pose dans les traités des critères écologiques? Qu'il n'y ait pas une décision publique qui ne soit prise à l'aune de son impact environnemental et écologique? Voilà une belle réforme. Eh bien moi, ce que je dis ici aujourd'hui, c'est que la grande leçon de tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'écologie dépolitisée si l'écologie n'est pas de gauche, au sens où elle ne remet pas en cause le modèle économique et cette intoxication à la croissance de la richesse matérielle qui est celle des pays européens, eh bien il n'y aura pas il n'y aura pas de scénario à moins de 2 degrés sur le réchauffement climatique. Il n'y aura pas de scénario qui inversera la dégradation de la biodiversité. Il n'y aura pas de politique qui empêchera l'artificialisation des sols et le bétonnage des du littoral. Voilà ce qui est la
réalité. Pourquoi vous voulez l'enfermer dans la gauche? Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de changement écologique si ce ne fait pas à gauche?
Mais parce que le libéralisme est strictement incompatible avec l'écologie.
Il y a une droite qui n'est pas libérale.
Non, mais objectivement, pensez-vous qu'aujourd'hui, il soit possible, vu les résistances qui sont celles de notre modèle de développement, des grands lobbies, à tout changement, on le voit encore cette semaine, mais il y a eu la démission du Hulot. Est-ce que ça change d'un iota l'attitude de la nouvelle majorité sur les glyphosates? Pas du tout. On continue à refuser l'interdiction des glyphosates dans la loi. On continue à refuser d'interdire l'épandage, la pulvérisation de pesticides à proximité de zones résidentielles ou d'écoles. Vous rendez-vous compte? Donc il n'y a pas de réveil des consciences. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de ce réveil des consciences, et c'est par cette mobilisation, cette énergie citoyenne, parce qu'elle est partagée par des citoyens, qu'on fabriquera la communauté de destin de la gauche, et pas par un accord d'appareil.
En tout cas, si la gauche parle d'une seule voix, c'est bien sur la petite vidéo du week-end montrant Emmanuel Macron dialoguer avec un horticulteur au chômage. Si je traverse la rue, je pourrais vous trouver un emploi, a-t-il dit donc à cet horticulteur. Comment avez-vous reçu cette image pendant les journées du patrimoine?
Je pense qu'un président ne devrait pas parler comme ça. Il ne devrait pas parler comme ça. Imagine-t-on De Gaulle ou Mitterrand parler ainsi? Puis Nicolas Sarkozy, il y a une forme de jouissance du pouvoir, de mise en scène du pouvoir qui amène les présidents de la République à aujourd'hui singer la puissance. Il ne devrait pas parler comme cela. C'est assez méprisant pour le jeune horticulteur en face de lui. Et puis c'est surtout totalement déconnecté de la réalité. D'abord, c'est un jeune horticulteur. C'est une formation spécifique. Est-ce qu'il a envie d'être plongeur dans un restaurant? Tout le monde n'a pas envie de bosser dans le bâtiment ou le restaurant ou les restaurants. Est-ce que parce qu'il n'en a pas envie, il ne veut pas travailler? Non, il a envie de travailler dans sa filière. Et il y a quelque chose de très déconnecté à tout cela, et je trouve je le dis un peu avec un peu de gravité, il faudrait qu'il arrête de se comporter comme un jeune militant libéral exalté qui fait des leçons de théorie économique à tout le monde. Il y a du boulot de l'autre côté de la rue, d'ailleurs les patrons me l'ont dit, etc. Non, voilà, on l'avait déjà dit, un président ne devrait pas parler comme cela. C'était valable pour le précédent, c'est valable pour lui aussi.
Chantal est en ligne, bonjour et bienvenue.
Bonjour. Je voudrais rebondir sur la question de Nicolas Demorand. Effectivement, moi, j'ai voté pour vous, monsieur Hamon. J'apprécie beaucoup votre projet. J'étais à fond. Et je suis très déçue de ce qui va se passer pour les européennes. Et qu'est-ce qu'on attend pour faire une liste au moins écolo, PC, certains membres de la France insoumise qui me paraissent tout à fait bien, et Génération. Je suis, vous laissez une partie de la gauche, de la vraie gauche, complètement effondré, je parle des citoyens, pour savoir ce qu'ils vont faire aux européennes. Voilà.
Merci Chantal pour cette intervention qu'on va enchaîner avec celle de Gilles. Bonjour Gilles, bienvenue.
Bonjour, j'appelais pour... on se rappelle du coup politique qu'avait payé Michel Rocard en faisant un mauvais score tout seul aux européennes, échec orchestré par Mitterrand en l'occurrence. Mais est-ce que Benoît Hamon ne craint pas, en cas de contre-performance, que le même piège se referme autour de lui? Et je me demande à ce titre si certains de proches des entendements de Benoît Hamon qui ont un pied avec lui, un pied encore au PS, n'auraient pas dans le fond intérêt à cela, en disant si ça marche bien, on reste avec Hamon, sinon pas au PS. J'aimerais avoir l'opinion de Benoît Hamon sur ce type de piège qui pourrait se refermer sur lui.
Merci Gilles pour cette question. Benoît Hamon vous répond. Alors il y avait la description du paysage vaporisé de la gauche par Chantal, et ce que vient de dire Gilles sur l'échec possible aux européennes pour vous.
Au fond, ce que pointent Chantal et Gilles, c'est l'immense contraste qui existe entre des dirigeants, des militants, des citoyens engagés à gauche, un peu orphelins d'une perspective, qui sont à 90% d'accord, mais sont incapables de se mettre ensemble. Moi, j'ai fait des propositions avant l'été, J'ai même tendu la main. J'ai dit « Génération s'inscrira dans une grande liste unie de l'écologie politique de gauche résolument européenne ». J'ai fait tendu la main, elle a été rejetée, notamment par les dirigeants des Verts. Très bien, je continue et j'avance. C'est pas pour autant qu'on n'y arrivera pas. Ce que je dis simplement, c'est qu'il n'est pas question, moi, que je rentre dans une énième tambouille avec qui que ce soit, et des appareils qui ne savent même pas aujourd'hui où ils en sont sur le plan politique, il me semble qu'il faut repartir de l'essentiel. Alors parlons d'Europe, puisque le sujet c'est l'Europe. Aujourd'hui, est-ce qu'on pense qu'il y a une réponse à l'urgence climatique qui peut être autre chose que continentale? Ma réponse est non. Donc il faut un grand New Deal écologique. Quand nous nous sommes, avec Yanis Varoufakis, associés pour créer un grand parti transnational, le Printemps européen, avec des partis polonais, portugais, danois, allemands, français, etc., nous avons voulu prendre l'Europe au sérieux. Et c'est en commençant comme cela. Alors moi, je refuse pas du tout la liste unie. Je l'appelle de mes voeux. Je dis simplement que je ne marcherai pas dans la énième combine qui vise à faire réélire
vous
un tel ou un tel.
Vous serez vous-même candidat ou tête de liste pour votre propre mouvement?
Écoutez, parce que je prends l'Europe au sérieux, je l'ai dit que je m'engagerai dans cette campagne. Je m'engagerai sans doute sur la liste, à quelle place, ça n'est pas important, à mes yeux aujourd'hui, mais je m'y engagerai.
Il y aura une liste génération.
Ah, il y aura, d'une manière ou d'une autre, génération sera sur une liste. Je ne pose pas comme préalable que génération aura sa liste. Je veux l'unité, donc j'y travaille.
Frédéric est au standard, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour à tous. Monsieur Armand, bonjour. Je voudrais vous interroger sur les critiques des commissions gouvernementales, législatives, pardon, sur l'affaire Benalla. Je rappelle que cette commission est tout à fait dans son rôle, puisqu'elle veut savoir comment le gouvernement, par l'intermédiaire de la police, a été infiltré par quelqu'un qui est venu lui donner des ordres. Il ne s'agit pas de juger Monsieur Benalla, mais bien le gouvernement. Dès lors, que penser des réflexions de Madame Belloubet, ancienne du Conseil constitutionnel, du président de la République et de Monsieur Castaner, qui appelle au respect de la Constitution et qui, en prétendant donner des ordres législatifs, sont en train, à mon sens, au contraire, de la violer. Qu'en pensez-vous?
Merci Frédéric pour cette question. Benoît Hamon.
Écoutez, si le gouvernement voulait attirer l'attention sur l'audition de Monsieur Benalla, il a réussi. Parce qu'il n'y a jamais eu une telle ramdam autour d'une audition dont il faut sans doute d'ailleurs pas attendre grand chose, puisque M. Benalla a pas l'air de vouloir dire grand chose. La question que je me suis posée, c'est que redoute-t-il tellement pour vouloir que M. Benalla ne soit pas entendu par la commission d'enquête sénatoriale? Qu'est-ce qu'il redoute dans ce qu'il pourrait dire? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a une fébrilité qui montre, bon, déjà, une certaine conception de la séparation des pouvoirs qui pose problème. Il y a aujourd'hui des prérogatives parlementaires qui doivent être respectées. Et on ne peut pas vouloir une démocratie continue et plus équilibrée et mépriser le Parlement dans son rôle de contrôle de l'exécutif. Donc je pense que la commission sénatoriale est dans son rôle. Et il me semble que depuis le début de cette affaire se révèle une conception de l'exercice du pouvoir et de la pratique du pouvoir, très ancien régime, très 5e République en fait. Parce que la 5e République est de ce point de vue, est très immature, voilà, qui n'est sans doute pas à la hauteur des exigences de transparence de nos compatriotes.
Une petite interrogation pour terminer, Benoît Hamon. Est-ce que vous comprenez pourquoi, un an et demi après son élection à la présidentielle, Emmanuel Macron est en chute libre dans les sondages, il est moins populaire aujourd'hui que François Hollande et Nicolas Sarkozy à la même époque, et que vous, c'est-à-dire Génération, le PS et les Verts, c'est-à-dire cette espèce de gauche social-démocrate, appelons-la comme ça, n'en profite absolument pas. Vous ne montez pas.
Si vous jugez la popularité des individus, oui, mais pas aujourd'hui le débouché électoral. Ma popularité, celle de la plupart, est en hausse.
Je ne juge pas la popularité, je regarde les sondages pour
comparer,
les Européennes.
Comparer ce qui est comparable.
Vous êtes à 4, les Verts sont à 5, vous pourriez en profiter énormément plus,
mais,
non?
Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on a besoin d'installer une alternative crédible. À qui? À un match que moi je refuse, celui des nationalistes et de M. Macron. Ils se sont choisis l'un et l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est mis au défi de proposer des solutions. Moi je l'ai fait, on n'en a pas beaucoup parlé. Hein. J'ai essayé de parler travail, j'ai essayé de parler d'Europe, réchauffement climatique, mais vous m'avez ramené sur à chaque fois ces questions-là. Donc je vous le dis, c'est quand même pas facile. Eh bien moi je pense aujourd'hui que ce troisième homme qui est le citoyen, il doit trouver... dans l'offre politique qui sera la nôtre, avec Génération, le PC, des socialistes s'ils le veulent, les écologistes, il y aura une liste unie de l'écologie. En tout cas, politique, je le souhaite. Mais ce débouché, il va venir, il monte. En tout cas, sur le terrain, moi, je le vois partout. Parce que les citoyens n'ont pas attendu que la gauche des appareils se réunissent pour prendre des initiatives.
Merci Benoît Hamon, fondateur du mouvement En Génération. Merci d'avoir été au micro d'Inter dans quelques petites secondes. Le carrefour du 7-9.